Le paysage avait changé depuis la grande route, par petites touches rapides et peu appuyées, mais c'était des modifications à peine sensibles, qui n'évoquaient ni de près ni de loin quelque chose d'aussi théâtral et d'aussi tranché qu'un changement de décor. Plutôt, songeait Simon, c'était une reprise des paysages étouffés et sans vue qu'il avait traversés depuis le matin. Haies et bouquetots, champs de choux, solitude sans échappée et toujours cernée de près du bocage, mais une reprise un peu assombrie, comme si la couleur eût été transposée dans le mode mineur, communiquant à toute la campagne que traversait la route quelque chose de souffreteux, de veuf et de morose. Des champs pauvres de trèfle et de blé noir, parfois un clos planté de pommiers, s'avançaient jusqu'au bord de l'accotement. La vue, à faible distance, était fermée par des bouquetots aux franges indécises, maigre peuplement de chênes, semé de taches d'encre par les pins isolés. Ces bouquetots n'avaient nulle part les angles nets et la consistance solide des parcelles reboisées. On eût dit plutôt une ancienne forêt essartée et longtemps tenue en respect, qui cherche à regagner son terrain en s'agrippant aux franges les moins surveillées, se massant dans les friches, se couvrant du revers des talus, patrouillant dans les coins de landes, levant la tête peu à peu derrière les fourrés de fougères et d'ajoncs. Quand un mamelon, un moment, relevait le profil de la route, l'image qui surgissait de la campagne ensauvagée était celle d'un ciel qui caille et que commence à envahir en désordre les filaments emmêlés des nuages. Une tension sourde devenait peu à peu la note obsédante du paysage. On devinait qu'au large de la route, au-delà des premiers plans sur lesquels retombait le rideau encore sans épaisseur, les bois devaient se souder déjà par cailloux plus denses et plus serrés. Le ciel s'était peu à peu couvert. Il avait sécrété partout à la fois, sans qu'on s'en aperçût, une pellicule mate et encore translucide, que le premier coup de vent allait froncer et ombrer comme une jatte de lait. À l'horizon du sud-ouest, devant la voiture, un imperceptible reflet argenté, qui devait déjà monter de la mer, éclairait en bas ce voile laiteux. L'ennui de la grande route, sous le soleil tombant d'aplomb, s'était dissipé. Simon n'était plus qu'un guetteur aux yeux tendus, essayant de déchiffrer, dans ce paysage qui muait, les signes qui allaient dénoncer l'approche de la côte. Il fixait devant lui cette frange de jour qui semblait brûler plus blanche au-dessus de l'horizon des bois maigres. L'esprit ensommeillé par le ronflement de la voiture, il ne pensait plus rien, sinon qu'il roulait vers la mer, sur cette route vide. Vers la mer, sans savoir pourquoi.
Élite Suisse, vous venez de lire un extrait de la presqu'île de Julien Gracq. Quel rapport, en tant que lecteur, vous entretenez avec Julien Gracq et pourquoi ce texte ?
Alors, ce texte, je dois dire que je l'ai découvert tardivement. J'ai découvert Julien Gracq peut-être quand j'avais 37 ans, donc il y a 8 ans. Et je veux dire que tout de suite, j'ai été littéralement fasciné par cet auteur. On parlait du rapport à l'écriture, voilà. Il y a peut-être un côté un peu trop classique, un peu cabotin même parfois chez Julien Gracq, qu'on peut lui reprocher. Mais il n'en reste pas moins que peu de gens sont capables de faire ce qu'il fait. Voilà. C'est quelqu'un qui a une écriture, qui assume une écriture, et qui arrive littéralement à projeter celui qui le lit dans un univers, dans un monde qu'il a façonné de toutes pièces et dans lequel on se plaît. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand je lis Julien Gracq, que ce soit le Rivage des Sirtes, que ce soit le Balcon en forêt même, ou la Forêt d'Argol, à chaque fois, je me plais dans ces romans. J'ai envie d'y être, j'ai envie d'y passer du temps.